Je le vois chez de la tête un peu. C'est vrai que ça fait été, hein, ce petit bed-là.
Ça, ça rate bonne humeur. C'est
avec
que
le soleil, on est de bonne humeur. Il est spécialiste en cybersécurité. Il était dans les forces armées canadiennes. Il est là avec nous. Steve Waterhouse est là. Steve, comment vas-tu?
Bon matin, ça va très bien, vous autres?
Ça va super bien. Hey Steve, je veux commencer avec en te posant cette question-là. On a vu il y a la semaine dernière à Saint-Noël une cyberattaque qui a été orchestrée par une organisation pro-russe envers le système d'eau potable de la municipalité de Saint-Noël. Dans ce que tu connais, toi, en cybersécurité et en protection, on est-tu à risque ailleurs?
Absolument. Et ça a été vu. Il y en a d'autres présentement au Canada et au Québec qui sont sous enquête de ces cyberattaques-là. Et celle que j'ai découverte à Saint-Noël, il venait d'avoir le jeudi d'avant, jeudi le 23 juillet, un manifeste de ces groupes cybercriminels russes qui disait qu'ils voulaient s'en prendre à tout ce qui est de contrôle industriel à travers le Canada. Production d'eau, production de services pétrolifères, etc. Et ça a donné. Saint-Noël, il était le premier sur la liste. Mais là, tout le monde dit, qui est intéressé d'aller vers une municipalité de moins de 900 personnes à aller saboter le système de traitement des eaux? Ben, c'est pas en regardant un atlas qu'ils ont fait leur choix. C'est vraiment une détermination quand ils ont regardé le firmament de l'Internet puis ont découvert que ce système-là, il était ouvert, disponible, d'accès sur l'Internet et sont allés faire un petit tour, ils sont allés faire une petite visite.
Mais ça, c'est quand même vraiment inquiétant, Steve Waterhouse, parce que ça fait partie de l'infrastructure dans nos besoins primaires, là.
Absolument, Pascal. Puis, tu sais, personne n'est intéressé de savoir pourquoi, à matin, j'ouvre la champlure, l'eau ne coule pas. Ça, il y avait tout le potentiel de que ça soit accompli dans cet incident-là parce qu'ils étaient dans le système de contrôle pour modifier les balancements chimiques pour l'assainissement de l'eau et en même temps d'arrêter ou de laisser marcher les pompes. Heureusement, ils ont laissé fonctionner. Ça a été même affaire dans un autre cas que j'ai découvert 3 jours plus tard en Ontario qui est encore sous enquête, il n'a pas été mis public. Qui dessert une population de plus de 100 000 personnes. Fait que, tu sais, c'est. Puis aux États-Unis, là, on l'a vu, là, ça touche 12 États. La première constatation a été la semaine dernière qu'ils avaient vraiment été visités. Ça, c'est un groupe basé avec des connotations iraniennes, basé donc ailleurs dans le monde, et qui ont visité 31 usines. De cette façon-là. Fait que le problème, il n'est pas juste ici, là, c'est un problème juste épisodique, mais bien, c'est vraiment rendu une épidémie. Et le gouvernement américain, ils sont plus proactifs que nous ici. Ben, eux autres, ils ont déjà des task forces à l'œuvre et même une cybermilice à l'œuvre pour être en mesure de pouvoir faire des interventions envers les municipalités. Puis ici, quand je l'avais essayé en 2022, je veux dire, je l'avais déjà vu anticiper celle-là parce que ça arrivait déjà. Mais il n'y a pas grand monde qui est à l'écoute. Puis ça n'aime pas travailler en prévention trop ici, des fois.
Quelle problématique de ne pas travailler en prévention. Ça, pour moi, ça fait aucun sens. Mais là, tu me parles qu'aux États-Unis, là, on a déployé justement, puis je vais le dire comme ça, là, t'sais, des alternatives dans cette gestion de risque et de crise-là. Mais ouais. De ce que j'entends de toi, c'est qu'on n'est pas en train de faire ça au Canada pour au Québec, c'est la petite
non,
business.
Non, j'entends des rumeurs qu'il y a des initiatives semblables là, qui pourraient être faites, mais on est loin de l'accomplissement d'une telle initiative parce que, justement, les gens, je ne sais pas, là, en tout cas, moi, je peux qualifier qu'il y a un manque de leadership par rapport à ça parce que quand tu apportes des idées de prévention comme ça puis de travailler intelligemment, puis ce n'est pas les gens qui ont les mains dans le système qui ne veulent pas. Là. C'est toujours à la couche supérieure, voire la couche politique, qui s'empêche des fois de dire « Hey, on va faire quelque chose, ça a du sens. » Malheureusement, le gros bon sens, il s'arrête parfois où ce que certaines politiques commencent.
Je me suis posé une question stupide, Steve, à ce niveau-là. Je me suis dit, c'est-tu parce que si on met les deux mains dedans, on se rend compte à quel point on a perdu du temps puis que c'est rendu creux et on est finalement un accès ouvert à tous ces gens-là qui voudraient pirater nos systèmes?
Wow, mais trop peu, trop tard des fois, Pascal, parce que c'est important de le faire là, plus que jamais. Puis tu sais, ça a commencé au fur et à mesure que dans les 20 dernières années, on a voulu faire de la gestion à distance. Les systèmes de traitement des eaux, les systèmes industriels similaires, c'est rare et ils ne sont pas conçus pour être capable d'être pris à contrôle à distance. Il fallait que tu ailles dans l'usine, en face de la console et faire les manipulations comme ça. Puis avec le temps, bien, il y a des technologies qui ont été créées pour être en mesure de le faire à distance, comme ça, tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais c'est pas toujours été les A+, d'un cours qui ont été capables de faire ça. Fait que souvent, ça a été donné à sous-contrat. Ça n'a pas été contre-vérifié une fois que l'automatisme d'accès à distance a été fait. Et on se retrouve avec des portes ouvertes. Et que là, les bandits y ont accès quand ça leur tente, et que du moins, je devrais dire, quand ils les trouvent.
Et là, est-ce que c'est en raison des coûts hein, qu'on ne travaille pas autant en prévention qu'en gestion de crise, tu sais, ou c'est tout simplement parce qu'on se dit, bon, c'est un événement ponctuel, tout simplement parce qu'on use de laxisme?
Oui, le laxisme est omniprésent pour la... Oui, il y en a qui vont mettre le fait que ça coûte de l'argent. Alors, malheureusement, c'est dans tout. Puis, regarde, on va donner un exemple là, avec les véhicules automobiles. À partir de quand? Les ceintures de sécurité sont devenues obligatoires. Bien, il a fallu une couple de morts, une dizaine de morts. Puis après ça, ben, il y a eu des enquêtes. Il y a eu, après ça,
coroner, puis etc.
Ben, c'est ça. Puis là, il y a des recommandations. Puis après ça, il y a des lois qui ont été votées. Puis là, bang, c'est devenu obligatoire d'attacher sa ceinture pour prévenir que quelqu'un meure lors d'un accident. Bien, c'est va-tu être le cas? Puis là, je suis encore là. J'hypothèse la solution. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui soient empoisonnés par un système de traitement des eaux qui n'a pas été sécurisé adéquatement pour qu'on change la façon de faire? Il faudrait peut-être pas arriver là, me semble, tu sais.
Mais là, on sait ça exactement. On devrait toujours travailler en prévention, mais malheureusement, au Québec, puis je vais mettre le Canada là-dedans aussi, on a toujours besoin de cette catastrophe-là. Puis là, je vais rester dans le domaine informatique. On a eu besoin d'un saclic pour faire une commission d'enquête puis là, changer nos pratiques alors qu'on aurait pu changer bien avant que le juge Galland se présente à sa commission d'enquête.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est un très bon point. Puis il y a un paquet d'autres dossiers comme ça qu'on pourrait dire pourquoi ça n'a pas été changé avant. Bien, justement, il en faut de la vérification et s'assurer qu'en cours d'exécution, que ça s'en va pas vers le précipice qu'on voit arriver. Là, parce que, à un moment donné, là, tu te dis, hey, on va tomber. Puis là, quand tu tombes, pourquoi ça m'est arrivé? Bien, voyons, tu savais que tu n'étais pas tombé. Fais un geste en conséquence que tu tomberas pas, tu sais, c'est un peu ça. Et là, je crois qu'il y a de la conscientisation qui va être faite, mais là, il y a une période électorale dans laquelle on s'en va vers une élection au mois d'octobre. Peut-être, ça peut donner des idées à certains politiciens de pouvoir promettre qu'ils vont améliorer les choses, je sais pas.
Là. Ah, que je le souhaite. Steve, bonne nouvelle pour les personnes dont le profil en ligne de l'Agence du revenu du Canada avait été piraté entre mars et décembre 2020. Peuvent finalement demander une indemnisation. Et puis là, il y a plusieurs types d'indemnisation. Ça peut aller jusqu'à 5 000 $. Il était temps que ce recours collectif-là voit le jour.
Ouais, mais j'ai hâte qu'on fasse une entrevue ensemble sur qui a eu droit d'en avoir de ces retours-là.
OK.
Déjà, le dossier de la PCU, c'est une grosse canne de verre. Et moi, je n'ai jamais demandé une scène pour ça. Puis, à la fin, j'entends plein de monde qui a eu plein de problèmes suite à avoir une demande d'aide, mais que ça a été, là, ils ont demandé beaucoup plus d'argent parce que les chiffres étaient vraiment mal gérés. Mm-hmm. Puis là, on parle justement de petits montants qui pourraient aller de 80 $ pour les plus petits, pouvant aller à 5 000 $ ceux et celles qui ont eu vraiment des impacts majeurs par le vol d'identité puis perte de financière. Mais tout ça, par exemple, il faut que tu le prouves comment que c'est arrivé. Il faut que tu le donnes à l'agent du revenu des preuves comme quoi, regarde, voici l'impact, voici le rapport de police, etc. Sinon, toute la gang ici, un matin, là, on peut aller chez Revenu Canada et dire, hey, voici, juste sur déclaration solennelle, voici ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui dit, tu sais, victime de renseignements personnels qui ont été consultés et utilisés à des fins frauduleuses. Où tu
comment
vas voir que
ça
a été arrivé?
Ben, c'est ça, parce que c'est la différence entre le 80 et le 200 $ là. Le 80,
oui,
c'est les victimes dont les renseignements personnels ont été seulement consultés. Ben, comment je vais réussir à prouver qu'il y a eu de la fraude? C'est très difficile.
Tout le monde a eu des renseignements consultés, des renseignements personnels consultés par un tiers qui n'a jamais donné une autorisation. Ça, c'est courant. Mm-hmm. Mais comment tu peux arriver à dire, puis le gouvernement, l'agent du revenu va vouloir exiger, ben prouve-moi que tes informations, tes consultées comme ça.
Fait que t'es en train de me dire que c'est une grande mascarade du gouvernement pour bien paraître.
Non, il y a quelque chose de légal là-dedans. Il y a un dossier légal qui a été travaillé. Et là, ça arrive à la conclusion. OK, ceux qui ont eu quelque chose de négatif qui est arrivé dans leur vie par rapport et qui sont capables de le lier à cet incident-là par rapport à la PCU de cette période-là, ils vont être en mesure d'avoir un recours. Tant mieux. Mais doute, en tout cas, par expérience, je ne suis pas juriste, là, mais par expérience, avec les systèmes, comment ça fonctionne, je pense pas
Oh
qu'il y en
my
ait beaucoup
God.
qui touchent le 5000, là.
Ça, c'est complexe en fait pour les systèmes gouvernementaux aussi parce que les gens peuvent s'attendre à en avoir dans une autre catastrophe, parce que c'est une catastrophe malgré tout, là, la pandémie.
Oui, puis je veux dire, est-ce que, tu sais, on va remettre ça avec nous ici au Québec, ben, en 2009, 2000, ouais, en 2019, Desjardins, est-ce que ça l'a fait en sorte que c'était la fuite qui a amené à ce que les éléments de mon identité personnelle ont été compromis dans la PCU que j'ai consultée, que j'ai eue, etc. Tu sais, il y a un paquet de fuites d'informations autour de cette période-là, mettons en 2019 puis 2023, qui est arrivé. Fait comment que un citoyen qui n'a pas accès à beaucoup d'informations, sauf qu'est-ce qui est publié en ligne, va pouvoir être déterminé. Ben oui, mes informations ont été consultées là, là, là ou là. C'est quasiment, moi, en tout cas, je ne le vois pas possible, là, sérieux. Et quand il arrivait des cas chez Desjardins, parce que Desjardins, il avait mis de côté 50 000 $ pour une grande quantité de personnes, si jamais il y avait des conséquences négatives, consultations médicales, psychologiques, etc. Puis quand il était le temps de le clamer, ça, c'est des personnes qui me l'ont confié, il épluchait justement le membre Desjardins pour savoir, OK, ben, dis-moi dans lesquelles circonstances, puis comment tu vas faire pour me prouver que c'est nous, Desjardins, qui est en cause dans qu'est-ce que tu viens réclamer, là.
Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont avoir le 5 000. Et là, si je me fie à ce que tu me dis, qu'on ne travaillait pas beaucoup en prévention pour qu'on faisait preuve de laxisme, on est-tu rendu meilleur à l'ARC ou on est encore au même point?
On est enregistré, hein?
Ouais, je m'excuse de ma question.
Disons, poliment, disons, on va dire, il s'améliore, tiens.
OK.
Il s'améliore.
S'améliore, mais ça s'améliore pas à un rythme qui devrait s'améliorer. Ça, c'est moi qui le dis. Fait que
Ouais.
je te mettrai pas dans le trouble. Je veux terminer, Steve, avec toi, avec ces formations qui ont coûté 500 000 $ aux États-Unis pour le dossier santé numérique. Comment ça, on est obligé de se déplacer aux États-Unis pour des formations? Pourquoi c'est pas l'entreprise qui s'est déplacée au Québec? Comme moi, j'ai vu dans ma carrière de
Ben
gestionnaire
oui.
dans toutes les formations, c'est la compagnie qui se déplace dans l'entreprise. Puis là, ils nous montrent comment le système fonctionne.
Et comme j'ai fait partout en Amérique du Nord, à une
Ben,
certaine
c'est
époque,
ça.
j'étais l'instructeur d'un système de protection d'accès Internet, puis j'en étais le seul au Canada. Et je me suis promené à travers l'Amérique du Nord comme ça. Fait que c'est pas les compagnies qui venaient à Montréal, puis qui, hey, là, j'étais chez nous, puis là, j'accepte, tu sais, je recevais tout le monde. Au contraire, je sais pas, c'est sûrement une mauvaise entente qui a eu lieu entre Santé Québec et Epic System. Mais il y a une affaire, par exemple, j'ai trouvé ça bizarre. Ils clament que les employés ont été hébergés dans un hôtel qui était à, quand un peu là, il disait 160, 145 km de Milwaukee. Oui, peut-être, mais il était à 10 minutes d'Epic System, là. Fait que je ne sais
Ben,
pas c'est
c'est
quoi le
ça.
problème de dire que l'hôtel, oui, on prend un contrôle, il était à côté d'Epic, parfait, mais ça demeure pas moins, il aurait dû, que ces 3-4 personnes d'Epic System, peut-être, les déplacer à Québec. C'est
Ben
sûr, ça
oui.
n'aurait pas coûté ce montant-là
Ben
qu'on
non,
voit
parce que là,
matin.
ça a coûté 87 000 $ juste en hébergement. T'sais, si
Ah,
c'est
c'est une
deux,
folie, là.
trois gestionnaires de système qui se déplacent au Québec pour 2 semaines, ça coûtera pas 87 000 $, là.
Bon, d'accord, ils ont eu le traitement royal à ce prix-là, je ne sais pas, là,
Hey,
mais.
Colin Debin, 85 000 d'hébergement, 500 000 au total en comptant les billets d'avion, l'hébergement et également, là, évidemment, là, les dépenses là-bas, les repas,
Mais là-dessus, j'ai eu
stationnement,
quelques
location.
confidences de gens à l'interne, puis, tu sais, c'est pas. C'était vraiment pas intéressant de faire affaire avec eux parce que, un, le français, eux autres, s'en foutent un petit peu,
Ouais.
puis. Je ne comprends pas non plus. Ils ont essayé pourtant. J'ai des personnes avec qui j'ai jasé que avoir ce que tu appelles dans le domaine, tu entraînes un entraîneur qui va faire la job par la suite. Train the
Oui.
trainer. Puis, je ne comprends pas qu'il n'y a pas quelques gens d'ici, donc des gens de Santé Québec. Peut-être qu'ils l'ont fait, je ne sais pas, mais quand je me suis renseigné là-dessus l'an dernier, il n'y en avait pas de prévu que de faire un formateur agréé par Epic System, puis après ça, il s'en retourne au Québec, puis c'est toi qui vas former tout le monde.
Hey, pourtant, ça se fait partout, ça, dans les entreprises.
Ben, moi quand aussi, j'ai implanté... je l'ai fait longtemps, ça.
Ben, c'est ça, quand j'ai implanté des nouveaux logiciels dans les patros, là, ben, on avait une personne qui se faisait former, ben oui. Qui formait les autres. Même principe au RTC. Je comprends pas
parce
pourquoi
le gros problème avec Epic System, c'est la langue, sérieux. Là, parce qu'aux États-Unis, eux autres, surtout dans le nord, dans ce coin-là, au Wisconsin, oui, historiquement, les religieux des années 17-1800 ont colonisé ce coin-là des États-Unis. Là. L'histoire, là, vous le démontrera, c'est très fort intéressant à lire. C'est pour ça qu'il y a ben, des villages de noms francophones qui sont là, mais il reste que le français est oublié avec le temps. Fait qu'ils n'en ont rien à cirer. Mais dans le contrat, y aurait-tu pu spécifier que, hey, on va formater mettons, formateurs francophones, ben oui. Puis après ça, on les ship au Québec. Là. Mais ça me semble plus économique de faire ça.
Vraiment, vraiment, vraiment. Encore de l'argent dépensé des contribuables de la mauvaise façon. Steve Waterhouse, toujours un plaisir de te parler. Je te souhaite une très belle journée.
À vous autres aussi.
Salut, Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Fait que on comprend avec Steve Waterhouse qu'il y a pas mal de problématiques. On travaille pas bien en prévention. Quand on a une crise, on la gère pas bien. On s'améliore pas vraiment non plus après une crise, là, ce qu'on comprend avec l'ARC. Puis, on n'a pas appliqué les principes de base de formation, ce qui fait en sorte que ça nous a coûté 500 000 pour santé numérique.
Oui, mais ça, là, c'est encore une autre enveloppe budgétaire perdue, parce ben qu'on oui. La considère perdue parmi tant d'autres. Au bout de l'année, au bout du compte, au bout de 5 ans, j'aimerais ça savoir combien d'argent on a mal investi.
Mm-hmm. Non, en effet.
Des projets de société, là?
Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Hey, on fait juste prendre sa clique, là, à, au-dessus d'un milliard. Là. Fait que là, imagine-toi. Puis partout, tu sais, quand on voit les dépassements de coûts dans les tous les dossiers de système de santé, là, que ce soit au niveau de la comptabilité, que là, au niveau de santé numérique, si on veut le calculer, c'est des écoles, c'est des hôpitaux.
Puis le pire, c'est quand on fait affaire avec des entreprises qui savent qu'ils peuvent peser sur le crayon par rapport à l'évaluation financière d'un projet parce que le gouvernement n'a pas les gens à l'interne pour dire « non, ça vaut pas ça ». Moi, je le sais, là, ça vaut beaucoup moins. Puis le panier bleu, c'était le meilleur exemple. Quand des gens qui étaient bons avec l'informatique, avec la création du site, ont fait le panier brun, puis finalement, ils l'ont fait en quelques secondes pour des sommes minimales, là, ben, versus ce panier bleu qui a servi à personne.
C'est un système transactionnel, normalement. C'est pas très complexe à faire. Texto qui est rentré, l'Agence Revenu du Canada a instauré l'authentification multifacteur obligatoire en octobre 2021 afin de sécuriser l'accès à ces services en ligne. Avant cette date, n'importe quel fraudeur pouvait se connecter en contournant le mot de passe avec les questions d'authentification. Les réponses étaient faciles à trouver sur les réseaux sociaux et avec les nombreux fuite de données des jardins. En effet, il y a eu une amélioration, là, ça, faut pas le cacher. Donc, on fait une courte pause. Par la suite, on parle avec Étienne-Alexandre Beauregard. On va revenir sur ce sondage. Moi, qui m'a surpris, cette baisse drastique de la CAQ, cette montée des libéraux dans le vote francophone. Donc, on jase de tout ça avec Étienne-Alexandre Beauregard au retour de la pause.
Pour nous informer de ce qui se